La première, 11h midi, au positif, avec Véronique Thiberghien.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à l'écoute de cette émission. Donc depuis le 1er septembre et pour la première fois, la notion de burn-out entre dans l'arsenal juridique de prévention des risques dits psychosociaux au travail. Qu'est-ce que ça va changer? Quelles seront les applications concrètes? Vers qui se tourner? Comment faire appliquer la loi et les changements au sein de l'entreprise? Pour en parler avec nous et avec vous, deux spécialistes en studio. Alice Arens, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'unité psychosociale au travail auprès du CESI, c'est le service externe de prévention et de protection au travail. Et le professeur Philippe Mériot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes du département de santé publique à l'ULG, vous êtes un spécialiste du burn-out. On va parler avec vous donc de ces questions concrètes. Qu'est-ce que va changer cette législation qui est entrée en vigueur ce 1er septembre? En tout cas, cette reconnaissance du burn-out, elle tombe à pic et à point. Votre avis sur la question et vos questions d'ailleurs au 02 737 26 06. 02 737 26 06. Vous pouvez également nous les envoyer par SMS au 60 31 75 centimes le message, ou aller sur le site de lapremière.be en cliquant sur ma photo. Vous trouverez les petites fiches à remplir pour nous envoyer ces questions qui nous arriveront immédiatement. Dans le cours de cette émission, on vous invite à courir. Courir pour la bonne cause, c'est pour la recherche contre le cancer du sein avec les amis de l'Institut Bordet. Vous pourrez participer à la Bruxelloise. Et puis en fin d'émission avec Lionel Francard et l'Autopsie des News, on vous parle de passage à niveau et de sclérose en plaques. Rien à voir, eh ben, vous allez voir, peut-être pas tout à fait. En tout cas, on fera le lien avec elle en toute fin d'émission. Il est 11h04.
Au positif, le dossier.
Notre dossier est donc consacré au burn-out aujourd'hui avec un petit rappel d'une campagne lancée un peu conjointement avec ce changement de législation.
Bonjour chef.
Bonjour Marc, tout va bien?
Ça va, ça va.
C'est quoi ce bruit?
Ça, c'est mon burn-out.
Votre burn-out? Vous pouvez pas l'éteindre?
Pardon?
Vous ne pouvez pas l'éteindre?
Non, c'est comme ça chef, je peux pas l'éteindre tout seul, ça va, ça vient, c'est... Ah voilà.
Eh ben...
Les signaux ne sont jamais aussi clairs. Apprenons à les reconnaître et agissons ensemble. Plus d'infos sur se sentir bien au travail.be.
Et oui, il est important de détecter le burn-out aujourd'hui. Je vous le disais, l'Organisation Mondiale de la Santé s'attend à ce qu'un travailleur, un travailleur sur quatre, soit confronté à des problèmes de santé mentale d'ici 2020. Et parmi ces problèmes de santé mentale pointés du doigt par l'OMS, le burn-out, bien entendu. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'attend évidemment pas 2020 pour agir. Et que si on peut faire baisser cette statistique, eh bien, ce sera d'autant mieux. Pour cela, des armes à mettre en place, évidemment, des choses au point de vue législatif. Et depuis ce 1er septembre, donc, le burn-out est entré de plein pied dans la législation belge. Elle est non seulement reconnue comme maladie professionnelle, mais en plus, eh bien, la responsabilité des entreprises et des chefs d'entreprise est engagée cette fois. Il va falloir agir réellement sur le terrain en matière de prévention surtout et essayer de changer les choses en la matière. Alors, professeur Philippe Mériot, on annonçait cet été, par exemple, que le nombre de fonctionnaires public qui avait été en arrêt de travail pour cause de burn-out avait beaucoup plus même que triplé, parce qu'on est passé de 852, je pense, en 2008 à 2850 et quelques pour 2013. Ça n'est pas une augmentation du nombre de cas ou d'absentéisme, c'est vraiment la détection du burn-out qui est devenue beaucoup plus efficace aussi et qui est peut-être mieux prise en compte aujourd'hui.
Oui, je pense qu'il y a une plus grande détection, mais il faut quand même être très prudent dans l'interprétation de ces chiffres, dans la mesure où chacun peut le constater presque dans la vie quotidienne, dans les médias. Le concept est en train de se diffuser très largement et je dirais de mon point de vue beaucoup trop largement puisqu'on va parler de burn-out pour des choses qui n'ont pas grand chose à voir avec le burn-out. Et donc, je pense aussi, et ça c'est aussi un peu l'avis de certains collègues psychiatres, autant il était et il reste relativement difficile pour un travailleur, quel qu'il soit, de parler de dépression, je suis dépressif ou je suis dépressive dans mon milieu de travail, c'est toujours vécu de façon assez négative comme quelqu'un de fragile. Mmh. Autant maintenant, dire qu'on souffre de burn-out, c'est simplement vouloir dire, la pression est beaucoup trop forte, l'entreprise est mal organisée, l'organisation du travail est défectueuse et j'en suis la victime. Et donc, il y a une acceptabilité du terme de burn-out qui, quelque part, va permettre sans doute à pas mal de personnes de se déclarer dans cet état-là, alors que peut-être, en fait, ce qu'il y a derrière n'a pas grand-chose à voir avec le burn-out. Enfin, c'est une hypothèse, ça mériterait d'être vérifié.
Est-ce qu'il est défini, justement, d'un point de vue médical? Oui, mais d'un point de vue légal, et est-ce que les deux se ressemblent? On parle de quoi, finalement?
Question difficile. Il n'y a pas de définition médicale stricte. Oui. Comme vous le savez sans doute, le burn-out n'est pas repris dans les différents syndromes de santé mentale qui sont repris dans le manuel international de psychiatrie, le DSM-4 ou maintenant le DSM-5. Donc ça, disons, du point de vue de la psychiatrie, ça n'existe pas en tant que tel. Premier problème. Et si on regarde maintenant toutes les recherches, elles sont extrêmement nombreuses depuis presque une trentaine d'années maintenant sur le burn-out, puisqu'elles viennent des États-Unis au départ. Ben, il n'y a pas un consensus international sur les critères. Hein. Pour faire simple, on parle de trois dimensions au burn-out. La première, c'est, et là je pense que tout le monde est d'accord, avec des petites nuances, mais tout le monde est d'accord, c'est le fait que la personne souffre d'une fatigue, d'un épuisement. Hein. Burn-out, c'est un peu être consumé de l'intérieur. Donc il y a une fatigue physique, mais il y a aussi une sorte de... On est vidé de sa substance, de son énergie psychologique. Hein. Ça, c'est certainement un des premiers aspects qui est sans doute le plus frappant et qui est pratiquement toujours présent, à des degrés divers, mais toujours présent. Second aspect, il y a un cortège de manifestations fonctionnelles qui, elles, peuvent être extrêmement diverses et absolument pas spécifiques du burn-out. Les gens peuvent avoir des palpitations, peuvent avoir des problèmes digestifs, peuvent avoir des maux de tête, peut-être mal au dos. Enfin, donc là, on a un cortège de choses tout à fait non spécifiques. On a aussi souvent, évidemment, des troubles du sommeil, hein, bien sûr. Et dernière chose, et c'est là qu'il y a parfois de la détection, qui n'est pas faite par la personne elle-même, mais par son milieu de travail ou son milieu familial.
Son entourage.
C'est un changement de comportement vis-à-vis des autres. Un détachement, une sorte de cynisme par rapport au travail chez quelqu'un qui n'en avait pas du tout auparavant, qui était extrêmement investi dans son travail, qui commence à prendre des attitudes... un peu je m'en foutis, ce qu'il n'avait jamais auparavant. Et ça frappe beaucoup l'entourage et ce sont des petits signaux d'alarme.
Alors il y a une question qui revient quand même très régulièrement et qui est liée à cette législation aujourd'hui. Burnout est lié clairement au monde du travail, puisqu'ici on est clairement dans le monde du travail. Est-ce qu'on peut être en burnout dans sa vie privée avant de l'être dans son milieu de travail? C'est une question qui est revenue souvent quand on a dit qu'on allait faire cette émission ou qu'on l'a préparée.
Ouais, je pense que pour que le concept garde une utilité et qu'il le garde notamment dans le contexte de la nouvelle législation,
oui.
Je pense qu'il faut réserver le terme de burn-out
pour le travail
à quelque chose qui est principalement lié à la situation que l'on vit au travail. Alors maintenant, quand on examine des cas individuels, il est rare, il faut quand même être franc, il est rare d'avoir des personnes qui sont exclusivement en burn-out pour des facteurs uniquement professionnels. Il y a souvent d'autres choses qui vont un peu... contribuent à la décompensation psychique. Ce sont parfois des difficultés dans le couple, ce sont parfois des difficultés avec des enfants, enfin des difficultés financières du couple, des choses comme ça qui vont venir un peu se surajouter.
Donc, restons bien dans le cadre du travail quand on parle de burn-out. Aujourd'hui, on parle de prévention des risques psychosociaux. Alice Arens, avant, on parlait uniquement, essentiellement, du harcèlement. Et au fond, ce que cette législation a changé, c'est aussi ce cadre-là qui a été modifié. Parce qu'on s'est aperçu que, in fine, sur le terrain, de parler uniquement du harcèlement ou de violence sur le lieu de travail, eh bien, c'était souvent mettre le travailleur en porte-à-faux et que les relations devenaient très conflictuelles entre le chef d'entreprise, entre le directeur de l'entreprise et ses subalternes. Ici, ce que la loi a voulu faire, c'est amoindrir les conflits et essayer véritablement de trouver des solutions, surtout en termes de prévention et de détection. Et là, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça responsabilise non seulement le chef d'entreprise, mais aussi les travailleurs eux-mêmes à cette problématique du burn-out.
Oui, donc effectivement, on évolue au niveau de la législation. Si on part de 2002 avec la première législation concernant l'harcèlement et la violence au travail, on parlait exclusivement d'harcèlement et de violence. D'ailleurs, c'était un volet légal tout à fait séparé des autres risques psychosociaux éventuellement qui pouvaient exister. Donc on a déjà vu une première évolution en 2007 quand on a intégré le harcèlement et la violence dans les risques psychosociaux. Donc on a déjà fait une première étape. Maintenant, au niveau des procédures d'intervention, la seule façon pour un travailleur de demander qu'on l'aide quand il est en souffrance sur le lieu de travail, c'était d'entamer une procédure pour harcèlement ou pour violence au travail. Mais ce qui, évidemment, ne favorise pas la gestion des conflits de manière constructive, de veiller à quels sont les facteurs qui ont amené à cette situation de travail qui est souvent difficile à vivre, tant pour le travailleur, mais également pour son entourage, pour son supérieur hiérarchique, pour l'employeur même, et qui, oblige le travailleur à entamer une plainte. Mmh. On parlait de plainte, on a enlevé ce mot-là maintenant avec la nouvelle législation, ce qui est une très bonne chose. Donc d'entamer une plainte au préalable, mais qui dit plainte, dit personne mise en cause. Et donc pour la résolution des conflits, évidemment, c'était très difficile à mettre en place. Aujourd'hui, on a enlevé donc ce mot plainte de la législation, donc on parle vraiment d'une demande d'intervention. Et donc cette demande d'intervention, qu'elle soit formelle, informelle, pour des problématiques collectives, individuelles ou harcèlement, donc on garde évidemment ce concept, via cette demande d'intervention, le travailleur demande à ce que l'employeur prenne des mesures. Donc on ne demande pas à ce qu'on punisse un supérieur, un collègue, etc., mais on demande à ce que l'employeur prenne en compte la problématique que vit le travailleur et à ce qu'il prenne des mesures qui puissent aider le travailleur et éventuellement en même temps d'autres collègues ou son supérieur. Donc on n'est plus dans le processus d'accusation, mais plus vraiment de recherche ensemble de solutions.
Mmh. Oui, parce qu'on détermine ici que finalement le burn-out serait le résultat d'une mauvaise organisation de travail, une inadéquation entre les compétences, les moyens donnés aux travailleurs et ce qu'on lui demande de faire in fine. On est dans la structure même de l'organisation du travail.
Dans le burn-out, il y a évidemment des facteurs de type plutôt personnel, liés au travailleur, à son fonctionnement, mais il y a énormément de facteurs liés à l'organisation du travail. Et ça découle assez logiquement d'une définition du stress de manière générale. Donc un stress, c'est une inadéquation entre des demandes, des contraintes que le travailleur reçoit et des ressources qu'il a à sa disposition pour y faire face. Donc oui, si j'ai des demandes élevées mais pas de ressources pour y faire face, ben, je risque de me retrouver dans une situation stressante. Et donc qui dit situation stressante à long terme de manière chronique, ben, risque à un moment donné d'amener le travailleur dans une situation de burn-out. Donc oui, il y a un facteur tout à fait organisationnel qui est un facteur important dans le développement, dans le processus de burn-out, qui n'est pas quelque chose qui survient subitement auprès du travailleur.
Je vous donne la parole dans un instant, Philippe Mériot. On reviendra dans un instant, bien sûr, sur cette notion. On va revenir aussi sur concrètement ce qu'on fait en termes de prévention, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et puis, on reviendra sur une question qui nous est déjà arrivée. Souvent, la personne qui souffre de burn-out s'ignore ou ne veut pas l'admettre. Et ce sont parfois les collègues qui s'en aperçoivent. Comment faire des demandes d'intervention? Et un tiers peut-il faire une demande d'intervention dans ce cadre-ci? Eh bien, on y répond dans quelques instants.
La première avec Véronique Thiberguien. Au positif.
Et Alice Arens, responsable de l'unité psychosociale au travail auprès du CESI, et le professeur Philippe Mériot du département de santé publique à l'ULG. On parle de cette entrée en vigueur, de cette nouvelle législation depuis le 1er septembre, donc concernant entre autres bien sûr le burn-out, mais nous arrêtons sur le burn-out, prévention des risques psychosociaux. Vous vouliez revenir, professeur Philippe Mériot, sur ce qui venait d'être dit avec Alice Arens, en reprécisant qu'effectivement, et ça rejoint peut-être un peu aussi la question quand même qu'on a reçue par rapport au fait que ce sont souvent d'après cette personne, en tout cas, les collègues qui s'aperçoivent que la personne est en burn-out avant qu'elle-même ne l'admette ou ne le reconnaisse, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ce n'est pas comme une grippe qui vous tombe dessus.
Non, ça ne vient pas du jour au lendemain et on n'est pas dans ce qu'on appelle par ailleurs, et c'est un tout autre contexte, le stress post-traumatique. Hein. C'est ici, tout le monde s'accorde. Là, il n'y a pas de discussion au niveau international. Tout le monde est d'accord pour dire que le burn-out, c'est un processus qui découle de l'exposition à un stress chronique important pendant plusieurs mois. On ne parle pas de 3 jours, on ne parle pas d'une semaine. Donc ça, je crois que c'est très important. Et alors, pourquoi les personnes qui en sont victimes, souvent, ne s'en rendent pas compte? Parce qu'on sait bien que les personnes les plus exposées au burn-out sont des personnes qui sont très investies dans leur travail. Parfois surinvestis, souvent décrit-on, mais il ne faut pas généraliser trop, mais enfin des personnes aussi très perfectionnistes qui veulent faire leur travail de façon impeccable. Et quand ces personnes sont soumises à des exigences importantes, Mme Arène s'en parlait un instant, bon, elles vont essayer d'augmenter leur niveau de performance. Et pendant un certain temps, ça tient le coup. Hein, et elles s'épuisent progressivement sans s'en rendre compte. Et c'est effectivement les collègues qui vont commencer à détecter des petits signes avant-coureurs que la personne va mal. Mais la personne, elle est toujours en train d'essayer de se battre pour faire face à ce qu'elle estime son idéal, ce qu'elle doit essayer de bien faire. Et elle est parfois capable d'aller extrêmement loin avant de, avant de reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parfois sa femme qui s'en rend compte, enfin son compagnon, sa compagne, c'est les collègues de travail. Donc là, il y a un problème de détection. La personne, souvent, ne détecte pas elle-même.
Mmh. Ou ne veut pas le reconnaître, parce que c'est encore pour beaucoup, et pour certains, en tout cas dans certaines tranches d'âge, un avis de faiblesse qui est
absolument,
assez dur
à supporter. Absolument, c'est une sorte d'échec, évidemment. Hein, oui. Puisque, et puis en plus, quand on est vraiment en burn-out, on perçoit, parce que ça, la personne va le percevoir, elle va percevoir une diminution de ses performances, elle ne va plus être capable de bien travailler. Oui. Hein, et donc ça, ça va introduire aussi une souffrance. Mais on va alors se battre encore un peu plus pour essayer de maintenir la performance, mmh, et on s'enfonce.
Alice Arène, c'est la question sous-jacente qui nous est arrivée d'ailleurs par SMS au 63-1-75 centimes. Le message, c'était aussi de savoir, est-ce qu'un tiers, puisque vous parliez de demande d'intervention qui peut être faite, est-ce qu'un tiers peut demander une intervention ?
Normalement, non.
C'est ça, c'est la personne elle-même.
Normalement, non. Maintenant, tout dépend évidemment de la prévention primaire qui a été faite dans l'entreprise. Donc, le tiers en tant que tel ne peut pas introduire la demande d'intervention pour un collègue ou pour un supérieur ou un autre travailleur dans son entourage. Donc, l'important, justement, c'est de bien informer tous les travailleurs de quelles sont les personnes de ressources dans l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, à qui je peux m'adresser, quels sont les signaux qui font que, oulala, il y a peut-être un signal d'alerte, il faudrait agir. Et donc, idéalement, on conseille plutôt aux collègues d'aborder la personne directement en disant, voilà, j'ai constaté que ton comportement a changé, tu es beaucoup là sans être là. Donc, on parle aussi de surprésentéisme sur le lieu de travail. Et d'informer, de ne pas hésiter à informer. J'ai entendu qu'il y a une personne de confiance qui existe, il y a un conseil en prévention qui existe. Il y a le conseil en prévention interne de l'entreprise qui, maintenant aussi, peut jouer le rôle de personne de confiance dans son cadre d'information. Et donc, d'utiliser vraiment ces canaux d'information pour sensibiliser la personne. Maintenant, demander une intervention proprement dite, il faut que la personne soit vraiment à l'origine de cette demande, puisqu'elle est acteur ou actrice vraiment de cette intervention.
Et est-ce qu'il faut attendre de la part de cette personne qu'elle ait vu un médecin, que ce médecin ait confirmé d'une manière ou d'une autre qu'elle était en burn-out, ou est-ce que le simple fait de se sentir en souffrance et d'avoir à un moment donné, de se dire, bon, moi si je continue comme ça, c'est clair, à un moment donné je vais craquer, et de pouvoir directement aller vers cette personne de confiance ou de référence, ou le service adéquat s'il existe au sein de l'entreprise, pour dire, voilà, là j'ai un problème et je vais droit dans le mur.
Non, donc il faut pas, j'ai pas besoin d'un certificat avec un diagnostic pour entendre une personne. Donc d'ailleurs, on parle des risques psychosociaux de manière tout à fait générale dans la législation. Donc toute personne qui est en souffrance peut s'adresser à la personne de confiance, au conseil en prévention, aux ressources humaines. Donc ça, c'est vraiment la politique de prévention de l'entreprise sur laquelle on veut mettre l'accent aujourd'hui, de mettre en place les acteurs auxquels les personnes peuvent s'adresser et qui facilitent aussi ce contact. Donc il ne faut pas passer par X étapes avant de pouvoir vraiment avoir un entretien avec une personne. Et donc, toute personne qui est en souffrance peut s'adresser vraiment aux personnes ressources par rapport à ça.
Professeur Mériot ?
Je crois qu'il faut aussi insister sur le fait qu'il y a des signes avant-coureurs, parfois au niveau collectif. En tout cas, moi, j'entends beaucoup de collègues médecins du travail qui me disent dans des entreprises, une fois qu'on a dans un département donné, on voit en visite médicale régulière des gens, et puis on se rend compte qu'ils ont, au cours de l'année écoulée, au cours des mois écoulés, ils ont été absents une semaine, 5-6 fois. Ah, mais ils ne sont pas tout seuls. J'en vois un peu un autre du même département le lendemain, même topo. Donc, une série d'absences que les gens vont prendre, bien sûr, sous certificat médical pour tenir le coup. Quand on a comme ça la collection d'un certain nombre de cas individuels, ben on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce département. Donc là, la nouvelle législation devrait permettre d'avoir une intervention dans ce genre de circonstances avant qu'un des membres du département ne plonge complètement.
Alice Arès ?
Oui, d'ailleurs, dans l'arrêté royal, c'est bien précisé qu'annuellement, il faudra évaluer tous ces signes en concertation avec le médecin du travail et les acteurs internes de l'entreprise qui permettront de mettre en place justement des mesures de prévention collective. En général, quand on intervient pour un travailleur en souffrance, ben, on n'est plus vraiment dans la prévention. On essaie de limiter les dommages au maximum. Mais est-ce qu'on peut encore parler de prévention ? Donc, d'où l'importance à nouveau de revenir sur la prévention primaire, les analyses des risques, la concertation entre acteurs de l'entreprise, ressources humaines. Donc, par exemple, l'étude sur le taux d'absentéisme est un indice assez parlant aussi qu'on peut utiliser justement pour évaluer, ben voilà, est-ce qu'on évolue dans le temps, est-ce qu'on a de plus en plus d'absences, quel type d'absences ce sont, est-ce que c'est des absences de courte durée, de longue durée. Donc tout ça sont des indicateurs qu'on appelle des indicateurs d'alerte qui finalement vont permettre de nous dire « Oh là là, on est dans une situation difficile ou peut-être tout à fait gérable et qu'il ne s'agit que de cas individuels. » Donc là, il faut déjà prendre en compte ces signes d'alerte.
J'ai reçu des messages parce que c'est vrai que j'ai parlé des chefs d'entreprise comme s'ils étaient épargnés par le burn-out et il se fait qu'effectivement des responsables dans des entreprises sont aussi touchés par le burn-out et qu'on ne les oublie évidemment pas et qu'eux aussi sont concernés évidemment. On y revient dans un instant. On en reparle d'ailleurs, on va reparler de cette responsabilité justement de l'entreprise et de la direction des entreprises. Comment peut-on faire en sorte que cette direction soit véritablement impliquée dans la prévention et rendre donc toutes ces relations moins conflictuelles aussi dans la gestion de cette prévention, comment faire en sorte qu'elle soit intelligente et que chaque acteur puisse être mis à contribution de celle-ci. On y revient après Bernard Lavillier.
Au positif. Le dossier.
Avec Alice Arens et le professeur Philippe Mériot, on parle du burn-out et de cette entrée donc en législation. Avec de nombreux messages, hein, à chaque fois qu'on fait une émission sur le burn-out, vous êtes nombreux à réagir. Merci de réagir. Et cela montre bien sûr que la problématique est omniprésente chez nous. 02 737 26 06 pour vos derniers messages d'ailleurs. De Camille par exemple, je suis en burn-out depuis presque 2 ans, soignée à la clinique du stress à Brugmann. Cauchemar, maux de tête, palpitations, panique, perte de mémoire et du sens de l'orientation. Le burn-out, ce sont de vraies souffrances qui ont des répercussions sur la vie personnelle, familiale et sociale. Je commence à sortir la tête de l'eau et la question de mon retour au travail se pose. Mais je suis terrorisée, d'autant que je n'ai plus aucun contact avec mon employeur, que mon job dans l'entreprise a disparu, que je n'ai même plus de bureau où m'asseoir. Je travaille dans une petite PME familiale qui peut me garantir que je ne vais pas retomber dans le... Non, qui peut, pardon, me garantir que je ne vais pas retomber dans le même cercle vicieux qui m'a conduit au burn-out. J'ai une peur panique de rechuter. Les lois sont souvent faites pour des grosses entreprises, mais pas pour des petites PME, nous dit Camille. Alors, on va faire 3 choses. On va d'abord parler prévention. En matière de prévention, vous l'avez dit, il faut des analyses régulières de la situation sur le travail afin d'essayer d'être véritablement dans la détection le plus tôt possible des problématiques qui pourraient survenir et mener à ces risques psychosociaux dont on parlait. Deuxième chose, dans ces analyses, il y a aussi la mise en place de mécanismes pour éviter ce type de problématiques. La sensibilisation également à la fois de la direction mais aussi des travailleurs. Et puis, il faut prendre des mesures. Alors, si la personne est véritablement en burn-out, une fois qu'elle revient, est-ce que là aussi la législation a changé et demande qu'on mette des choses en place ?
Oui. Donc, effectivement, on parle des différents niveaux de prévention. Donc, dans notre jargon, on parle de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Donc, quand on parle de prévention primaire, c'est évidemment éviter...
En amont.
Éviter
qu'on en arrive là
et détecter les sources éventuelles de burn-out et les éliminer au maximum. Ce qui est évidemment très difficile quand on travaille dans le domaine psychosocial d'éliminer les dangers, on va dire ça comme ça. Donc là, on peut faire effectivement des analyses des risques, des sensibilisations pour que les personnes puissent détecter le plus tôt possible les signes d'alerte, de détecter quels sont les risques psychosociaux de manière générale qui permettront d'éviter des cas de burn-out, en tout cas au niveau collectif. On parle alors de prévention plutôt secondaire. Donc là, on est dans les personnes qui montrent des signes de burn-out. Donc il y a déjà une charge psychosociale présente. Et donc là, il faudra travailler sur limiter le dommage lié à la personne. Et puis, il y a tout un volet et qui, dans le burn-out, joue un rôle évidemment très important. C'est ce qu'on appelle la prévention tertiaire. Mais maintenant, est-ce qu'on est vraiment dans la prévention? Ça, c'est un autre débat. Il y en a qui parlent plutôt de post-vention. Donc là, on est plutôt dans tout l'aspect retour au travail, justement. Donc la plupart des services externes et nous également, on s'est penché sur la problématique du retour du travail. Et d'ailleurs, la législation en parle de la collaboration accrue entre le médecin du travail, les conseillers en prévention psychosociaux, les acteurs de l'entreprise, par exemple les ressources humaines, mais également des assistantes sociales, des ergonomes, pour voir quel est le poste de travail dans lequel je vais retourner dans mon entreprise. Ça nécessite également la formation du management, donc la ligne hiérarchique qui doit réaccueillir un travailleur au bout de X mois d'absence. Ce n'est pas un travail facile à faire. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui s'est passé, éventuellement voir quelles étaient les causes organisationnelles aussi de ce burn-out, préparer un entretien de retour, donc sans que ce soit un entretien qui juge la personne, préparer l'équipe au retour de la personne et accompagner la personne dans ses premières semaines de retour. Mais avant de faire ça, il faut déjà savoir si le poste existe encore dans l'entreprise, s'il faut en créer un autre. Est-ce que la personne, au jour d'aujourd'hui, ici dans cet exemple, on avait au bout de 2 ans d'absence, est-ce que c'est encore le travail qui lui convient? Est-ce qu'il faut d'abord faire un bilan avec la personne pour savoir est-ce que c'est encore dans cette voie professionnelle qu'on veut s'orienter? Est-ce qu'on veut faire est-ce qu'on a besoin d'un changement d'orientation? Tout ça, c'est un travail préparatoire énorme, mais qui est important si on veut éviter le retour du burn-out ne fût-ce que permettre à la personne de reprendre le travail.
Je sais que la loi est censée éviter les conflits, mais enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise est quand même obligée de se poser la question de savoir pourquoi le travailleur a été dans cette situation-là et de se dire, j'ai une part de responsabilité dans mon organisation et je dois trouver quelle est cette part de responsabilité et plus se laver les mains en se disant, cette personne est peut-être juste un peu fatiguée, stressée, puis finalement, elle avait qu'à s'adapter, elle n'a pas su s'adapter. Voilà. Parce que la réaction, quand même, il faut le dire, c'était quand même souvent ça de la part des directions. Je ne dis pas que tous les directeurs sont insensibles, loin s'en faut, mais enfin, c'était quand même la facilité, la réaction de facilité qui était choisie plutôt que de se remettre en question. Et là, on va être obligé de se remettre en question d'une manière ou d'une autre, de tous les côtés, bien sûr, mais il y aura cette obligation. Ça, c'est quand même intéressant. Philippe Mérieux, vous vouliez réagir?
Oui, je voulais réagir parce que le témoignage de Camille que vous avez évoqué est assez exemplatif, je pense. Tout le monde sait qu'une fois qu'on est vraiment en burn-out, notamment les médecins conseils des mutualités qui voient ces personnes en incapacité de longue durée, disent minimum 6 mois, souvent 9 mois, 12 mois, 2 ans n'a pas l'air d'être exceptionnel, c'est clair. Et donc, avec tout le cortège de problèmes que ça peut représenter pour réintégrer le circuit du travail. Certains disent qu'ils sont assez pessimistes, beaucoup vont tomber en invalidité, ne vont jamais réintégrer le marché, enfin en tout cas ne vont pas réintégrer à court terme le marché du travail. Et donc là, on avait un véritable défi et beaucoup de situations, on voit que la personne va réintégrer le travail, mais finalement, elle fera le choix. Soit elle est dans une grande entreprise et elle a la possibilité de changer complètement de département. Donc, elle va revenir, elle va à la limite démarrer un nouveau travail dans un nouveau département avec des nouveaux collègues. Ça peut marcher. Revenir exactement dans le département où on était auparavant, où on va retrouver des facteurs qui ont un peu précipité les choses, c'est souvent très difficile. Ou bien alors la personne, et c'est parfois aussi cette période de longue absence, c'est une période de se remettre en question, de réanalyser ses choix de vie, parfois change complètement de boulot, ou en tout cas va exercer peut-être le même boulot, mais dans une entreprise tout à fait différente. Donc ça, c'est souvent ce qui se passe dans les vrais cas de burn-out, et donc un parcours long, difficile, pour lequel il est clair qu'il faudrait que les personnes soient mieux aidées qu'elles le sont aujourd'hui.
On a justement Isabelle qui réagit. Après 17 ans de carrière, j'ai dû m'arrêter en raison d'un burn-out en 2009, dont je ressens encore les effets aujourd'hui. Quand je regarde mes 17 ans de carrière, je constate que ce burn-out a été quasi permanent. Et pourtant, j'étais efficace, presque louée même, donc regrettée par tous mes collègues et supérieurs, ce qui est loin d'être réciproque. Je pense que même si les conditions et les relations professionnelles ont beaucoup contribué à me consumer, c'est le sens même de la vie professionnelle qui me touche le plus. Et c'est ça, c'est aussi cette question-là, le sens du travail, le sens que l'on donne à ce que l'on fait au travail.
Oui, il y a des choses extrêmement interpellantes. Lors d'une réunion récemment, j'avais un médecin du travail qui a cité le cas de plusieurs personnes d'un secteur où on ne penserait pas qu'il y ait de burn-out parce que c'est un travail manuel, peu qualifié, le secteur du nettoyage. Des nettoyeuses qui étaient en burn-out, qui étaient en pleine décompensation psychique. Pourquoi ? Parce que ces femmes qui travaillaient dans cette société depuis 15-20 ans, donc elles étaient plutôt jeunes, ce n'était pas l'aspect physique du métier qui les décompensait. Non, c'était le fait que leur société avait été reprise par un plus grand groupe et que ce grand groupe, dans la logique de concurrence, de baisse des prix des marchés et tout ça, avait dit, dorénavant, pour nettoyer la surface de bureau que vous nettoyez d'habitude, c'est plus une demi-journée que vous allez prendre, vous allez faire ça en 1h30. Et on leur avait appris comment nettoyer sans aller dans les coins, sans aller sous les bureaux. Et ça avait rendu ces femmes, certaines d'entre elles en tout cas, complètement malades. Dorénavant, je dois faire le même travail, mais de mauvaise qualité. Elles avaient investi, pour elles, ça avait de la valeur de bien nettoyer. Mmh. Les gens étaient satisfaits, on leur demandait de faire l'inverse. Mmh. Et ça, c'est des choses qu'on entend de plus en plus souvent dans différents secteurs. C'est très interpellant sur le sens du travail.
Sens du travail qui peut être d'ailleurs très élargi et qui est souvent très élargi dans la plupart des messages que l'on reçoit par rapport au sens du travail de manière très générale aujourd'hui dans notre société et la valeur qu'on lui accorde. Alice Arendt, c'est professeur Philippe Berriot, malheureusement c'est déjà terminé pour nous. On rappelle quand même que cette loi est en vigueur depuis le 1er septembre et que donc ce sont les personnes de référence au sein de l'entreprise vers qui il faut se tourner aujourd'hui et que l'entreprise a notamment obligation de faire connaître ces personnes de référence auprès de tous les travailleurs. Sensibilisation donc avant tout, sans exagération bien sûr par rapport à ce qu'est le burn-out. On l'a bien redéfini aussi en début d'émission. Merci à tous les deux d'être venus avec nous. On va essayer de mettre une série de liens sur la page Facebook de l'émission qui permettront aux auditeurs d'avoir plus d'informations très concrètes aussi concernant cette loi et cette nouvelle législation des préventions des risques psychosociaux. Merci à tous les deux. Dans quelques instants, on parle de courir. C'est la bruxelloise qui va bientôt avoir lieu. Et on parle aussi, à travers cette bruxelloise, de la lutte contre le cancer.
Au positif, la perve du jour.
Perve du jour consacrée à la bruxelloise qui en est à sa 6e édition. Elle aura lieu ce 14 septembre. Allez donc courir pour lutter contre le cancer du sein avec les amis de l'Institut Pordet pour en parler. Daniel Lagasse, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes l'une des chevilles ouvrières de cette bruxelloise.
Oui, tout à fait. Alors, je fais un petit rectificatif. Les amis de l'Institut Bordet, on les avait aidés pendant 4 ans et cette année, ce sera pour un projet de l'UCL.
Voilà. Ah, parfait. Voilà. Donc, nouveau projet qui s'ouvre cette année. Et ce projet concerne quoi, alors, cette édition?
Alors, cette édition, c'est pour le Centre du cancer du sein de l'UCL, à qui on va reverser la grosse majorité, enfin, serait payée des inscriptions, des participantes. Alors, on a dit jogging, mais aussi, il y en a qui marchent, qui font la marche nordique. Il n'y a pas que des gens qui courent.
Non, effectivement, et c'est ouvert aux familles également. Hein, tout le monde est le bienvenu.
Tout le monde est le bienvenu, puisque les enfants chez nous, ils peuvent venir en dessous de 12 ans et ils ne payent rien du tout. Ils participent à la fête et c'est l'occasion pour papa, maman, puisque depuis l'année passée, on a un tout petit peu ouvert aux hommes. C'est un jogging, je répète, qui reste uniquement féminin. Mm-hmm. Mais vu la demande après 5 éditions de papa qui voulait courir pour soutenir leur femme qui avait été malade ou de simplement des coachs qui entraînent aussi des femmes qui ont eu des difficultés avec le cancer du sein, on a un peu ouvert en mettant un petit clin d'œil puisqu'on leur demande d'avoir un petit accessoire ou un petit déguisement féminin.
C'est une course.
Maintenant, il y a des grosses abeilles qui courent. Voilà. Donc oui, sur le site, on peut voir ça. C'est assez comique.
Donc c'est véritablement une fête, hein, cette bruxelloise. Et ça se passe à XL, hein, c'est ça? Au Bois de la Cambre. Hein.
Au Flagey. Flagey. Donc c'est sur la petite place Sainte-Croix, juste devant l'église, où en fait chaque année on fait un village avec plein d'associations comme Vive comme avant, Saint-Saint, UCL qui sera là, où toutes ces associations sont en contact avec les femmes et peuvent avoir différents échanges entre eux et pouvoir un peu en apprendre plus.
Alors c'est pas une nouveauté, hein, les femmes qui courent pour la recherche contre le cancer et en particulier aussi le cancer du sein, ça fait longtemps que ces courses existent. C'est la 6e édition chez nous. Vous vous attendez à peu près à combien de personnes cette année? Parce qu'il y a eu jusqu'à 2000 participants, un peu plus de 2000 participants déjà.
Donc c'est ça, il y a 2200 préinscrites. Donc chaque année, c'est de plus en plus. Donc c'est bien, tant mieux. Et oui, effectivement, c'est des courses qui existent. Enfin, nous, il y a 6 ans, on avait lancé pour soutenir une copine. Et puis après, ça s'est développé. Et tant mieux, hein, puisque ça amène un peu plus d'argent où il y en a besoin. Cette année, il y a 2200 préinscrites déjà.
Ah oui, donc ça va être une belle course et une belle fête. On le rappelle, course, courir ou même marcher, peu importe, du moment qu'on est mobilisé, qu'on se bouge pour cette recherche contre le cancer. Alors, très concrètement, on fait comment? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour le 14 septembre? Et si on a oublié de s'inscrire, est-ce qu'on peut se présenter le 14 septembre comme ça, en se disant « je veux y participer quand même »
Oui, alors de toute façon, on peut, puisqu'on peut venir à partir de 8h30, il y aura encore des dossards en vente à ce moment-là pendant une heure. Et puis, quand il n'y a plus de dossards, ben, les gens qui voudront participer pourront toujours encourager tous ceux qui sont là. Puis, je rappelle, c'est un jogging aussi un peu atypique qui se fait en pleine zone urbaine. Donc, Place Flagey, c'est un nœud de communication important. Et donc, ce sont des boucles de 3, 6 ou 9 kilomètres. Une boucle, deux boucles ou trois boucles. Donc, on les voit passer tout le temps. Plus le marché qui se fait sur la place Flagey le dimanche matin. Tout ça amène une ambiance festive, je dirais, pour un événement très sérieux.
Il y a en plus un excellent marché sur lequel on peut trouver des produits absolument délicieux. Ouais. Donc voilà, pour se donner tout de l'énergie pour participer à la Bruxelloise ce 14.
D'ailleurs, un petit clin d'œil que de cette première édition, c'est qu'après le jogging, je vois régulièrement les femmes qui ont couru avec leur dossard en tenue, qui vont faire avec leur cabas, leur petit marché. Et je crois que c'est assez rare, après un jogging, de voir ça.
Effectivement, c'est assez rare. Donc, c'est la 6e édition de la Bruxelloise. Rendez-vous pour ceux qui se sont déjà inscrits à 10h30 à la place Flagey. À partir de 8h30, si vous n'êtes pas encore inscrit, votre droit d'inscription, 10€ sur place et 8€ en préinscription. Et on rappelle que c'est pour financer la recherche. Et cette fois, tout ira à la recherche à l'UCL. C'est bien ça, hein ?
Tout à fait.
Je n'ai rien oublié. Pour avoir des infos sur le site la-bruxelloise.be, pour vous inscrire également. Daniel Lagaze, bon succès à vous pour cette édition, pour cette 6e édition. On vous soutient de toute notre énergie et on sera avec vous dimanche. Merci Daniel.
Super, merci.
Au revoir, bon courage. Cynthia Emilia, avant de retrouver Lionel Francard, d'autres Autopsie des News, je vous rappelle qu'on parle entre autres de passage à niveau.
Au positif, l'ADN.
Bonjour Lionel Francard.
Bonjour Véronique, bonjour à tous.
Avec notre Autopsie des News, aujourd'hui on commence avec une campagne qui a peut-être déjà un tout petit peu interpellé vos oreilles depuis hier sur nos radios, on l'entend.
Oui.
Salut, c'est Arnaud. Souvent tu vois, les musiciens, ils cherchent le son qui tue. Mais aujourd'hui, il y a des gens, ils font des conneries quoi. Allez, tu sais, il y a des morts au passage à niveau. Alors, je vais te faire écouter un truc. C'est pas le son qui tue, c'est l'inverse. C'est le son qui sauve. Tu vois, quand tu entends ce truc, ben, tu t'arrêtes. Voilà.
Au passage à niveau, le son qui sauve, tu l'entends, tu t'arrêtes. Une initiative d'Infrabel en collaboration avec l'IBSR.
Et voilà, donc vous avez reconnu la voix d'Arnaud, du chanteur Arnaud, et Infrabel donc poursuit sa campagne pour mieux lutter contre les accidents et les décès qui surviennent sur les rails belges. Toujours trop d'accidents, toujours trop de décès. Un simple chiffre, simplement, c'est que durant ce premier semestre, les premiers 6 mois ici en 2014, eh bien, le taux d'accidents et de décès est presque égal à celui qu'on a recensé durant toute l'année 2013. Alors, ça fluctue. 2012 a été aussi une année avec des chiffres élevés, 2013 un peu moins ici. Voilà, il y a des augmentations qui sont notées.
Mais c'est une augmentation qu'on ne s'explique pas vraiment, du coup. C'est pour ça qu'Infrabel a décidé de réagir de toute façon.
Oui, c'est ça. Il signale que 100% des accidents en 2013 étaient dus à un mauvais comportement des usagers de la route. Et donc, Infrabel se donne à nouveau comme mission d'encore mieux sécuriser les passages à niveau. Et donc, c'était hier matin que le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire a présenté sa toute nouvelle sonnerie qui sera installée sur quelques 1600 passages à niveau à travers le pays. Alors, on l'a déjà entendu, cette nouvelle sonnerie, dans cette campagne avec Arnaud. Je vous proposerais d'entendre l'ancienne pour se souvenir.
Oui, avant, il y avait quoi ?
Oui. Ah oui, voilà.
Je me souviens.
Ça, c'est l'ancienne.
Ça se réveille un peu.
Oui, un son continu, alors que voici la nouvelle.
Oui, c'est différent.
C'est un peu comme une cloche. L'opération a commencé lundi à la gare de Skarbek et dans plusieurs grandes villes. Elle durera jusqu'à la fin 2015 pour changer ces 1600 sonneries sur les 1600 passages à niveau pour un coût total de 3 millions d'euros, tout compris.
Mais pourquoi ce nouveau son et en quoi et comment pourra-t-il sauver véritablement des vies, ce nouveau son ?
Alors, pour la première sonnerie, l'ancienne, bah bon, qu'on entend encore un petit peu, hein, ils vont pas changer, on l'a dit, ils vont donner un peu de temps pour changer tout ça, mais c'est une sonnerie mécanique, ça ressemble à un cours de récréation dans les écoles, et c'est vrai que c'est 90 dB hein, pour cette sonnerie, et c'est un son continu, alors que le nouveau, qui est un son électronique, je vous dis ça parce que ce sera plus facile, ce qui était mécanique demandait beaucoup d'entretien, ici c'est électronique, ça va demander moins d'entretien, ce sera plus exact, on aura moins de soucis à ce niveau-là. C'est 85 dB, donc nos oreilles, ce sera une bonne chose pour elles, elles en souffriront un tout petit peu moins. C'est proche d'un son de cloche et c'est un son qui est pulsé ou oscillant et donc discontinu, ce qui permettrait, à en croire Infrabel, d'augmenter la vigilance des chauffeurs, cyclistes et autres piétons. Alors, une autre nouveauté à signaler, c'est qu'il est unidirectionnel. Donc, c'est dirigé uniquement vers les bandes de circulation qui traversent le passage à niveau et il devrait moins déranger les riverains, voilà, qui est une bonne chose aussi. Une sonnerie qui aurait déjà fait ses preuves au Canada et aux Pays-Bas. Voilà, on espère que ça va encore limiter ces quelques accidents qu'on note chaque année.
C'est vrai qu'on s'habitue plus vite à des sons lancinants qui sont toujours les mêmes et que du coup, on les zappe plus facilement que ce son-ci qui ressemble un peu au sens des Américains, je trouve.
Oui, au Canada
aussi, effectivement. Alors, si vous aimez le chocolat, pour passer à toute autre chose, nous aussi, bien sûr, et la Ligue de la sclérose en plaques a relancé sa fameuse opération Choco-Clé en collaboration avec l'artisan chocolatier Galère.
Oui, elle vous propose ses bâtons, ses mini-bâtons, ses mini-tablettes. Voilà, il y a du choix hein, pour les amateurs de chocolat. Et c'est vrai que c'est une action clé, hein, Choco-Clé, pour la Ligue belge de la sclérose en plaques, pour qu'elle puisse mener à bien ses missions de soutien et d'information auprès des personnes atteintes de sclérose en plaques. Chaque année, dès le mois de septembre, à Bruxelles et en Wallonie, des volontaires assurent la vente de chocolat artisanal au profit de cette association.
Avant, tout me souriait. Mes amis, mes amours, mes études, je faisais plein de projets. Puis un jour, le verdict est tombé.
Troubles moteurs et visuels, fatigue intense, la sclérose en plaques emprisonne près de 12 000 personnes en Belgique. Soutenez la Ligue belge de la sclérose en plaques. Achetez nos chocolats ou devenez vendeur bénévole. Plus d'infos sur chococlé.be.
Plus de 65% des bénéfices de cette opération Choco-Clé retournent d'ailleurs aux affiliés.
Oui, via des aides directes ou indirectes, hein, telles que des dons, des subventions pour ces affiliés de la Ligue, des subventions de transport, des activités récréatives. Et à côté de ça, eh bien, le reste lui permet aussi de mener à bien ses autres missions, comme soutenir la recherche médicale, accompagner les personnes atteintes de la sclérose en plaques et leur entourage, informer et puis accueillir et favoriser la rencontre lors des activités dans les provinces wallonnes à Bruxelles et au centre de rencontres. Un seul site à signaler, hein, chococlé.be, si vous voulez acheter des chocolats et même en vendre autour de vous. On va essayer de se lancer là-dedans, Véronique ?
Non, on ne va pas essayer. On va se lancer là-dedans. On va vendre des chocolats. Au positif, vous vendez ces chocolats. Vous pouvez passer commande si vous voulez. Ou passez nous voir, ça sera une bonne occasion, pourquoi pas, de faire plus ample connaissance. Lionel, on se retrouve demain si... Vous êtes avec nous, bien sûr.
Oui.
Ainsi d'ailleurs que Sandra Veras et Catherine Sorel qui préparent les dossiers de l'émission, bien sûr. Et Pierre Antoine qui était derrière la console aujourd'hui. On se retrouvera donc demain pour une nouvelle édition du magazine Au Positif. Vous aurez les références que l'on a données dans cette émission sur la page Facebook de l'émission et sur la page de lapremière.be sous l'onglet de l'émission Au Positif, bien sûr. Et puis les podcasts également dès cet après-midi. On parlera contraception demain, pléthore de choix. Mais justement, comment faire un vrai choix concentré, concerné sur la contraception. Aujourd'hui, on en parle demain dans l'émission. Belle journée.
Podcast, la première.